Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. L'affaire des magistrats révoqués en Tunisie, le tribunal administratif de Tunis leur a donné gain de cause la semaine dernière, mais le ministère de la Justice souligne qu'ils font l'objet de poursuites judiciaires dans votre journal, Ella Ben Youssef, vice-présidente du parti Etakatol. L'armée israélienne a annoncé avoir neutralisé un tunnel creusé depuis la bande de Gaza par le Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Une annonce une semaine après une escalade militaire de 3 jours entre Israël et le groupe djihad islamique. Nous écouterons l'ancien député européen Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité. Les talibans ont célébré hier le premier anniversaire de leur retour au pouvoir à Kaboul. Malgré leurs promesses, la situation des femmes depuis s'est considérablement dégradée. Originaire de Casablanca au Maroc, l'écrivaine Rita Desrosiers publie un roman dont l'action se situe en Angleterre, l'enfance des Parker. La romancière s'est nourrie de littérature anglaise, notamment Virginia Woolf. Rita Desrosiers sera l'une de nos invitées. Les 57 juges révoqués en Tunisie font l'objet de poursuites pénales, une annonce du ministère tunisien de la justice. Les magistrats révoqués par le président Kais Saied qui ont obtenu gain de cause, la mesure ayant été suspendue par le tribunal administratif de Tunis. Pour Ella Ben Youssef, vice-présidente du parti Etakatol, cette décision a été prise sous la pression internationale. Elle reste inquiète, dit-elle, pour l'état de droit en Tunisie, notamment après l'arrestation de la maire de Tabarka, Ella Ben Youssef.
C'est une décision, non, elle n'est pas totalement indépendante. Heureusement qu'elle a eu lieu d'ailleurs, parce que c'est important que le tribunal administratif aussi prenne ses mesures, joue son rôle aussi, mais je ne pense pas que c'est complètement indépendant, malheureusement. Pour une vitrine et pour de l'affichage, suite à des pressions de l'international sur le président de la République. Ça rappelle un peu la période de Ben Ali, où il y a eu... quelques décisions comme cela avec la Ligue des droits de l'homme et où on remet des personnes dans leurs fonctions pour faire plaisir à d'autres. L'état de droit est en train de reculer en Tunisie. Il suffit de voir aujourd'hui ce qui se passe avec les suspensions dans les festivals en Tunisie, des pièces de théâtre, des one-man shows, des présentations culturelles, où aujourd'hui nous ne savons plus qui prend les décisions. Est-ce que c'est le ministère de la Culture qui prend la décision de laisser diffuser ou pas une prestation intellectuelle culturelle, ou est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur et la police et les syndicats des polices qui décident qui passe, qui ne passe pas. Il y a un grand problème aujourd'hui de recul, d'un flou total. Qui prend la décision, qui dirige ce pays, qui fait quoi, est un réel problème aujourd'hui en Tunisie. Aujourd'hui, il y a une femme qui est emprisonnée, la mairesse de Tabarka, qui est emprisonnée sans cause. Nous sommes inquiets pour ce jugement où le dossier n'a pas été instauré avec aucune procédure judiciaire correcte qui a été mise en place. Seulement, cette femme, elle a été menacée et aujourd'hui, elle est en prison alors qu'elle n'a absolument rien faire, seulement vouloir instaurer la justice et instaurer la loi dans sa commune. Le pays est dirigé sans aucune vision. Le pays est dirigé par une seule main, par une nouvelle dictature qui s'installe dans notre pays, où tous les pouvoirs sont entre les mains d'une seule personne, ce qui est inadmissible dans un pays démocratique qui a fait une révolution en 2011 et nous ne devrions pas l'oublier, même si le président est un juriste, et c'est ce qui nous fait encore plus mal dans cette façon de gérer le pays. Normalement, il sait très bien comment les lois fonctionnent dans notre pays, comment les institutions de l'État fonctionnent dans notre pays, et que le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant qui permet de créer un équilibre au sein de notre pays, que le président de la République n'a pas le droit de créer cette ingérence.
Ella Ben Youssef, vice-présidente du parti Etakatol en Tunisie, elle répondait à Loïc Barrière. Les dernières troupes françaises ont quitté le camp de Gao au Mali. Un départ après 9 ans d'intervention militaire. Elles vont désormais se redéployer dans les pays voisins du Sahel. Cela marque ainsi la fin de l'opération Barkhane. Le président français a rendu hommage à l'engagement de tous les soldats qui, souligne-t-il, depuis 9 années, ont combattu les groupes armés terroristes sur la terre malienne. Ce départ intervient sur fond de relations houleuses entre Paris et la la junte au pouvoir au Mali. Au total, la France a dû sortir du Mali quelque 4000 conteneurs et un millier de véhicules, dont des centaines de blindés, alors que le Sahel connaît une flambée de violences, des violences que le groupe paramilitaire russe Wagner, nouvel allié du Mali, peine à endiguer. La France fait part de son émotion après l'incendie qui a frappé dimanche l'église copte Abou Sifine au Caire. 41 personnes ont été tuées. Le feu causé par un court-circuit s'est déclenché au milieu d'une messe. Par la voix du Quai d'Orsay, la France dit rester pleinement solidaire des autorités et du peuple égyptien dans cette épreuve. L'armée israélienne a annoncé avoir neutralisé un tunnel creusé depuis la bande de Gaza par le Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Une annonce une semaine après une escalade militaire de 3 jours entre Israël et le djihad islamique avant un cessez-le-feu. Les bombardements israéliens ont fait des dizaines de morts entre le 5 et le 7 août dernier. Éditorialiste à l'Humanité, Patrick Le Yarrick souligne que c'est la première fois qu'Israël mène des attaques de manière préventive. Patrick Le Yarrick.
La nouveauté, en quelque sorte, de cette affaire, c'est qu'Israël a déclaré faire des frappes préventives contre des dirigeants du djihad islamique. C'est-à-dire que si le djihad islamique était endormi, ils ont réussi à le réveiller, tout en mettant de côté le Hamas comme force avec lesquelles on pourrait aujourd'hui dialoguer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut trouver toujours plus radical que soi dans une situation où les populations sont totalement écrasées, appauvries, affamées et qui vont manquer de plus en plus d'eau. Donc ce concept de frappe préventive, alors que aucune chancellerie au monde, même pas, je crois, l'Organisation des Nations Unies, n'a élevé la moindre protestation et demandé d'arrêter, est particulièrement abject au moment où on fait des remarques justifiées d'ailleurs à M. Poutine sur sa manière de mener la guerre contre les Ukrainiens.
La haute commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est élevée contre le nombre extrêmement important d'enfants tués lors de cette offensive.
Oui, on estime à peu près 40 personnes tuées, mais je pense que c'est plus que cela, dont de nombreux enfants. Ces enfants-là ne sont adhérents à aucune organisation djihadiste quelconque et ne font strictement de mal à personne. Ils demandent à vivre. Donc, oui, il faut cette protestation, mais maintenant, ça ne suffit pas. Il faut faire cesser cette impunité, voire cette complicité envers les dirigeants israéliens aujourd'hui.
Vous avez le sentiment que ces raids sont liés à la campagne électorale qui se déroule actuellement en Israël ?
Oui, c'est vraisemblable. C'est souvent comme cela. On fait payer aux Palestiniens de leur sang, des morts dans leur famille, des deuils, les campagnes électorales et la radicalisation de la politique israélienne pour obtenir les voix des plus radicaux, c'est-à-dire des colons. Mais ça, ça n'a strictement rien à voir avec ni l'éthique, ni la démocratie, ni la volonté d'application des résolutions des Nations Unies d'appliquer le droit international. Donc cette impunité-là doit absolument cesser. Aujourd'hui, il faut que des voix s'élèvent contre cela parce que il y a beaucoup de monde qui auront ça sur la conscience sans tarder.
Patrick Le Yarrick, ancien député européen, éditorialiste à l'Humanité, au micro de Loïc Barrière. Un Palestinien âgé de 21 ans a été tué hier. Il a été abattu après avoir tenté, selon la police israélienne, de poignarder les forces de l'ordre qui menaient une opération dans un quartier de Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël. L'agence de presse officielle palestinienne Wafa indique que cet homme a reçu, selon son père, une balle dans la tête tirée à bout portant par les forces israéliennes au domicile familial. Les talibans ont célébré hier le premier anniversaire de leur retour au pouvoir à Kaboul. Une prise de pouvoir après une offensive éclair menée sur tout le territoire afghan contre les forces gouvernementales de l'époque. Malgré leurs promesses, la situation des femmes depuis s'est considérablement dégradée. Elles n'ont pas le droit de sortir, sauf absolue nécessité et en burqa. Elles ont été écartées des postes de fonctionnaires, des collèges et des lycées, interdites également de voyager sans être accompagnées d'un homme. Les mariages précoces précoces et forcées sont également en forte hausse. L'Afghanistan, où des inondations provoquées par de fortes pluies ont tué une trentaine de personnes et détruit des dizaines de maisons, un drame dans l'est du pays. Des dizaines d'Afghans meurent chaque année à cause de pluies torrentielles, en particulier dans les zones rurales pauvres, là où les maisons sommairement construites peuvent facilement s'effondrer. En Syrie, une base de la coalition anti-djihadiste menée par Washington a été la cible d'une attaque de drones. Cela s'est passé dans le sud-est du pays. Il n'y a pas de victimes. La coalition anti-djihadiste a déjoué plusieurs opérations similaires dans le passé, dont des attaques de drones contre la base d'Al-Tanf établie en 2016 aux confins de l'Irak et de la Jordanie. Attribuée sous conditions de ressources, l'allocation de rentrée scolaire est versée dès ce mardi à plus de 3 millions de familles. La revalorisation de 4% votée il y a quelques jours par le Parlement sera toutefois perçue dans un second temps. Pour bénéficier de cette allocation, il faut avoir à charge un ou plusieurs enfants âgés de 6 à 18 ans, scolarisés, apprentis ou pris en charge dans un établissement d'accueil spécialisé. Une allocation versée sous conditions de ressources, il ne faut pas dépasser certains plafonds que les caisses d'allocation familiale détermine à partir des revenus perçus en 2020. Originaire de Casablanca au Maroc, l'écrivaine Rita Desrosiers publie un roman dont l'action se situe en Angleterre, L'enfance de Parker. La romancière s'est nourrie de la littérature anglaise, notamment Virginia Woolf. Rita Desrosiers.
Quand j'ai démarré l'écriture de ce livre, je voulais écrire quelque chose d'assez fantaisiste. Finalement, l'histoire de l'enfance de Parker s'est révélée beaucoup plus profonde qu'elle en avait. Alors, à la surface, le livre accueille le lecteur dans une atmosphère qui est chaude, à l'intérieur d'une bibliothèque qui est vivante, qui est desservie par un couloir dans une grande demeure anglaise. Donc, au départ, ça a été écrit pendant la période de la pandémie, et j'avais vraiment envie d'écrire de quelque chose d'un peu drôle et de fantaisiste. Et il y a d'ailleurs un petit peu d'ironie à l'intérieur du texte. Et peu à peu, effectivement, le texte s'est transformé en quelque chose d'à la fois drôle et d'à la fois profonde.
Alors, vous décrivez une société britannique en plein changement après la Seconde Guerre mondiale. C'est finalement dans les années 50 qu'a commencé le monde que nous connaissons aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Ça s'est passé dans les années 50, mais en réalité, ça aurait pu se passer à une période de transition. Ça me paraissait être la meilleure période pour parler de la transition dans laquelle on est. Aujourd'hui, on a vu quand même avec cette pandémie une accélération d'énormément de processus qui étaient en cours avant et qui se sont mis précipitamment à s'accélérer. Je pense au travail depuis la maison, je pense au fait que la marchandise arrive chez nous. Il y a eu énormément de changements dans notre mode de vie. Je pense aux réseaux sociaux, à la parole partagée, à la distance sociale, à l'incompréhension. Je pense à l'intimité selon le milieu social, le mode de vie. Je pense à la catharsis par l'expression artistique, qui peut être très différente selon le milieu social. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que cette période se prêtait bien pour avoir un regard excentré, un peu lointain, parce qu'on voit mieux les choses quand on les voit en surplomb, d'un peu loin. Et j'ai trouvé que les caractéristiques, effectivement, étaient bonnes pour décrire tous les thèmes qui m'occupent actuellement.
Alors, il y a une atmosphère particulière dans votre roman. On découvre la campagne anglaise, les falaises du sud de l'Angleterre, puis les Landes du Nord. Vous avez grandi à Casablanca, au Maroc. L'Angleterre a toujours été pour vous une source d'inspiration ?
Oui, pour une raison assez simple finalement, c'est que j'ai toujours trouvé comme foyer culturel et intellectuel dans la littérature anglaise ce qui me plaît et qui fait le lien finalement avec ce côté oriental que j'ai, parce que les personnages sont absolument centraux dans la littérature anglaise. C'est-à-dire que si je devais situer mon écriture, j'écris un peu comme une portraitiste. Je donne vie à mes personnages tels qu'ils s'offrent à moi, en fait. Et je scrute leurs gestes. D'ailleurs, l'incipit n'est ni une pensée philosophique, ni une condition météorologique. C'est un personnage qui accomplit un geste. C'est à partir des gestes que je comprends l'intimité des gens. C'est-à-dire que dans mon éducation, effectivement, orientale, le dialogue n'est pas primordial. C'est-à-dire qu'on comprend à partir des gestes, et j'ai toujours compris les gens à partir des gestes, et j'ai toujours conversé à partir des gestes. Beaucoup de choses ne sont pas dites, beaucoup de choses passent par le regard, par la main, et c'est vrai que la littérature anglaise a toujours été pour moi un foyer, parce que c'est une littérature qui est centrée sur les personnages. On ne cherche pas, quand on écrit un peu à l'anglaise, j'ai envie de dire, On ne se dit pas, tiens, je vais raconter telle histoire, quels sont les personnages qui vont s'adapter à cette histoire. Le mouvement est inverse, c'est-à-dire on a des personnages et l'histoire finalement vient se greffer au-dessus de ces personnages. Je décide jamais d'ailleurs quel sera le dénouement de mon histoire, comment elle va se dérouler, etc. Je regarde les personnages et l'histoire se pose brique à brique au fur et à mesure et elle se concentre sur la personnalité des gens et les événements se déroulent selon la circulation entre les consciences respectives de chacun des personnages.
Alors vous aimez la littérature anglaise, on pense à Jane Austen notamment quand on vous lit.
Alors oui, par transition, effectivement, puisque Virginia Woolf a beaucoup lu Jane Austen. Moi j'ai surtout lu Virginia Woolf, même si j'ai aussi lu Jane Austen. Mais je comprends, oui, effectivement, il y a cette intimité explorée, il y a toutes les briques, en tout cas tous les éléments symboliques sont là, effectivement. J'ai un attachement particulier à Virginia Woolf et que j'ai beaucoup lu. Et je continue à lire d'ailleurs parce que il y a dans la littérature de Virginia Woolf toujours différentes clés. Selon qu'on lise le texte dans un état d'esprit ou dans un autre, on arrive toujours à trouver une nouvelle interprétation du texte. Et j'écris aussi avec plusieurs couches, c'est-à-dire que j'ai une structure qui se met en place, je relis le texte et au fur et à mesure je rajoute des couches pour que les angles de vue s'élargissent, s'agrandissent. Donc j'intègre de nouvelles notions et mon texte a été réécrit, je ne sais pas, une centaine de fois peut-être.
Rita Desrosiers, elle publie un roman intitulé « L'enfance de Parker ». Rita Desrosiers était au micro de Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe, présenté par Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, bientôt 12h17.